Bonjour et bienvenue dans la saison 3 de Mettons le couvert. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux et nombreuses et de nous soutenir avec vos messages sur nos réseaux. C'est grâce à vous que ce podcast perdure et grandit. Ici, on accueille celles et ceux qui osent le changement et donnent un sens à chaque coup de fourchette, aussi bien pour soi que pour notre société et notre précieuse planète. Pour démarrer, laissez-moi vous demander, avez-vous déjà mis les pieds dans la terre ? Au point de vous enraciner avec elle, au point de la redécouvrir et d'apprendre ce qu'elle a à offrir. Les plaisirs, mais aussi les difficultés. Désapprendre ce que l'on sait et réapprendre à se connecter avec la nature. Nous avons croisé le chemin de notre invité du jour, Vincent Herzog, qui a toutes les journées les pieds dans la terre. Et nous espérons que son parcours et sa passion vous amèneront aussi à ancrer vos pieds, à vous poser certaines questions sur cette terre. Nous accueillons donc aujourd'hui Vincent Herzog, un homme de terrain engagé pour promouvoir le bien-être de la fourche à la fourchette. Vincent est un entrepreneur aguerri ayant développé et dirigé plusieurs entreprises dans le domaine de l'horlogerie au sein de sa société familiale MH Décor, de l'apiculture avec la mise en place d'un rucher écologique Be Human et du bien-être physique et mental avec sa société More Human qu'il dirige toujours. Et actuellement en reconversion professionnelle dans une exploitation agricole avec un élevage de vaches. Bienvenue Vincent, on est enchanté de t'avoir avec nous.
Mais merci beaucoup, bonsoir et puis merci de l'invitation.
Alors avant de commencer notre entretien, on aime bien poser une question à nos invités un peu sur leur carte d'identité alimentaire, c'est-à-dire tes origines culinaires, tes goûts. Et on va le faire de manière un peu moderne en te demandant si tu devais te définir avec un ou deux hashtags, ce serait quoi ?
Hashtag pas d'extrémisme alimentaire.
C'est pas mal.
La diversité.
Très très bien. Alors entrons dans le vif du sujet. Tu as vraiment sillonné dans plusieurs environnements professionnels, comme je le disais en introduction. Et depuis 2022, tu as décidé de te tourner dans le monde de l'agriculture. Et donc, explique-nous un peu en fait l'endroit dans lequel tu es. Donc, tu travailles dans une ferme avec des animaux.
Hein, c'est une ferme biologique.
D'accord.
Et où c'est assez intéressant, c'est très varié. On a à peu près 50 hectares de grandes cultures, principalement, je dirais, pour l'humain. Un peu de maïs un petit peu de maïs et d'orge pour les animaux quand même, qu'on utilise nous-mêmes, hein, qu'on retraite en farine pour nos animaux. Mais c'est à raison de... Ouais, c'est du 1 à 2% de ce qu'on donne aux animaux. Mm-hmm. C'est vraiment juste pour l'engraissement. On ne donne jamais ça en dehors de la période d'engraissement pour les taureaux principalement. Et puis le reste, donc grande culture, il y a beaucoup de sarrasin, millet, blé panifiable, engrains, donc les vieilles céréales en fait, engrains, épeautres, j'en oublie sûrement plein. Beaucoup de courges aussi. C'est l'enfer, les courges. Quand il y a 2,5 hectares, quand il faut désherber à la main, c'est une catastrophe. Là, on est vraiment mis à rude épreuve. Et quand il faut les récolter à la main, c'est, je dirais, le boulot le plus physique de l'année. Des patates, sinon des pommes, des oignons, ail, échalotes, roux-doudou. Je vais sûrement oublier, parce qu'il y a pas mal de choses, mais du coup, ça c'est avec la personne chez qui mon patron loue une partie du terrain, qui lui était maraîcher. Donc on lui file un coup de main, c'est pas nous qui gérons ces cultures-là, mais quand même. Mm-hmm. Et puis à côté de ça, il y a effectivement un troupeau de vaches allaitantes. Donc les vaches allaitantes, c'est les vaches qui restent avec leurs veaux pour, malheureusement, entre guillemets, il le faut bien, avec leur mort, donc la mort des taureaux, pour l'instant qu'on engraisse, on peut continuer, nous, à vivre grâce à eux. Donc c'est des bêtes qu'on met à l'engraissement. En général, ceux qui sont à l'engraissement en ce moment, qui vont partir début août, Ils ont fait 6-7 mois à l'extérieur et puis après ils sont sevrés de leur mère, ils sont mis à l'intérieur et puis là ils sont engraissés alors à l'intérieur avec un accès, c'est la SRPA, c'est la loi sur le bien-être animal qui nous oblige à faire ça. Et puis on le fait aussi parce que en exploitation biologique c'est quand même le but d'avoir les animaux dehors même s'ils sont en engraissement. Et puis là ils restent du coup 6 mois en général jusqu'à ce qu'on les amène à l'abattoir.
D'accord. Non, c'est intéressant d'avoir un peu ce contexte dans lequel tu as atterri. Donc. Et quand on a préparé cet entretien, ce qui nous a interpellé, c'est que oui, tu nous as parlé du bien-être animal, mais avant tout, tu nous as dit, mais parlons du bien-être humain. Et j'aimerais un peu t'entendre sur ce sujet, sur cette expérience, puisque tu nous dis qu'en fait, et on l'a bien compris aussi dans ton parcours, L'humain est au centre de tout ce que tu fais, même dans, dans ton nouveau métier. Hein, tu dis que tu l'as eu aussi parce que tu avais un lien avec la personne chez qui tu travailles.
Oui.
Et quel est l'angle, en fait, du coup, qu'est-ce que tu as appris sur ce bien-être ou pas, finalement, de la vie d'agriculteur ou d'éleveur?
Je pense qu'il y a une chose que les gens oublient totalement, c'est que l'être humain est un animal. C'est aussi simple que ça. Et donc, quand on parle de bien-être animal, l'être humain devrait être inclus dans le bien-être animal. Quand je parle notamment avec des antispécistes, où je suis quelqu'un de très diplomate et j'aime dialoguer. Mais quand je parle avec ce genre de personnes qui ont ces idées, en fait, pour eux, c'est marrant, ils divisent la chose en deux. Il y a les animaux et il y a l'humain. Alors qu'on est censé, justement, dans un contexte comme ça, promouvoir la vie, on va dire. Je ne vois pas en quoi la vie d'un humain est plus dommage que la vie d'un animal et vice-versa. On doit les juger sur le même plan. Et moi, ça me choque dans ce sens-là où, aujourd'hui, on met plus l'accent et l'énergie pour sauver les animaux que pour sauver les humains. Dans un contexte comme l'agriculture notamment, moi, avec mes abeilles, avec mes animaux actuellement, je ne peux pas nier que leur santé, c'est ma priorité, même sur la mienne. Donc, je fais exactement le contraire de ce que je dis. Ces êtres vivants comptent sur moi. Ils ont besoin d'un couvert, parfois, ils n'ont parfois pas besoin d'un couvert, mais bref, il y a des situations qui font qu'on a besoin d'adapter, puisqu'on les détient quand même dans un cadre qui n'est pas libre. Donc, par contre, derrière, eh bien, du coup, notre bien-être à nous, et là, j'en viens à d'autres expériences que j'ai faites en stage, on a des gens en Suisse, parce que quand on parle d'agriculture et d'alimentation, on ne peut pas se rendre compte des contraintes qu'on a tant qu'on n'a pas vu le compte en banque et les revenus de l'agriculteur. Et ça, c'est très important. Parce que, je vais prendre un exemple concret que j'ai vécu ce printemps en stage, chez des gens qui font du lait avec veau sous la mer. Génial. Je me suis dit, l'aspect éthique, moi, c'est quelque chose que je veux faire plus tard. J'ai été voir plusieurs fermes qui font ça. Et en fait, ces gens-là, ils ont 4 enfants. Ils commencent à 5h30 du mat et finissent à 20h. Alors, il y en a un qui part chercher les enfants. Enfin, il y a tout un système derrière. Et puis, en fait, ça joue pas. Ils sont dans un état de stress toute la journée. Ils bossent comme des dingues pour le même revenu. En fait, moi, je ne comprends pas pourquoi ils font ce système de bien-être animal avec le veau sous la mer, parce que ça leur ajoute 2 heures de boulot par jour qui les mettent juste au-dessus de la limite du tolérable, en fait. Moi, quand j'étais sur place, je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, mais vous vous rendez compte que si vous arrêtiez de mettre le veau sous la mer, vous auriez une vie normale, entre guillemets. Vous pourriez avoir 2 heures de libre par jour pour vos enfants, vous pourriez être moins stressé, dormir plus, parce que du coup, ils jouaient avec les gamins jusqu'à 10h30 le soir. Mais les gamins, ils ont 4, 5, 6 ans, donc c'est pas non plus un idéal pour les enfants. Enfin, à un moment donné, il faut être réaliste. Et en fait, on en arrive à une situation où ces gens, pour survivre, ils doivent travailler de cette manière et en fait, mettre leur vie de côté. Il faut qu'on arrête d'humaniser les animaux aussi. Un veau qui naît tout de suite avec ses congénères, qui vit, bien sûr, il ne faut pas l'isoler dans un igloo comme certains font, ça je pense, psychologiquement parlant, ça ne joue pas non plus, mais dès le moment où ils sont ensemble entre copains, et qu'on leur donne du lait le soir et le matin qui vient des mers qui sont plus loin, et qui peuvent aller dans les champs l'après-midi quand même jouer avec eux, avec les copains à l'herbe, à l'air, etc., ça va jouer. On ne doit pas se mettre cette espèce de surplus de pression. Et en fait, c'est des gens qui, en plus, n'en retirent rien, parce qu'ils vendent leur lait à une laiterie. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont le veau sous la mer qu'ils touchent plus d'argent. Mm-hmm. Mais ils ont cette espèce de valeur qu'ils veulent promouvoir. Donc, ils ne vont pas arrêter, en fait. Et moi, j'ai trouvé ça terrible. Le soir, j'étais dans ma chambre tout seul et je me disais, mais waouh. Donc, on choisit quoi? On choisit de faire du bien au veau ou on choisit de faire du bien à tout le monde. La famille, l'être humain, l'animal qui est derrière aussi. Voilà.
Justement, j'aimerais un peu creuser ce problème économique, peut-être que tu as observé, du coup, vécu aussi, et que tu vis sûrement maintenant, je ne sais pas.
La convention collective, elle est sur Internet, hein, il suffit d'aller la regarder pour voir le problème économique.
Oui, mais justement, tu es arrivé avec un regard neuf, tu as monté plusieurs entreprises, donc mm-hmm. Je pense que tu t'y connais quand même dans cette partie financière. Tu arrives dans un domaine où les gens travaillent peut-être autant que ce que tu faisais avant, voire plus, avec un impact non négligeable, tu nous disais, hein, sur leur vie personnelle. Non négligeable non plus, je pense aussi au regard des autres, parce qu'effectivement, tout écart peut être tout de suite stigmatisé, peut-être pas de la bonne manière. Qu'est-ce que toi, t'en retires, en fait, ou qu'est-ce que t'as appris, là, depuis ces 2 ans que t'es dans ce milieu, comme, on va dire, principal défi? Et finalement, alors c'est peut-être, t'as pas encore, j'imagine, le recul, mais avec l'expérience que t'as eue d'avant, de te dire, ben, si on te demandait, voilà, ça fait 2 ans que tu es sur le terrain, tu as une expérience d'entrepreneur, si toi tu pouvais changer quelque chose, ou si tu as vu des clés en fait pour justement trouver un juste milieu, ce serait quoi?
Il y en a beaucoup. Je dirais, la première chose, pour revenir à ta première question, oui, d'un point de vue économique, ce qui m'a choqué, et d'un point de vue de nouveau bien-être humain, on va dire, c'est qu'on est la seule convention collective, on est les seuls agriculteurs quand on est employé. Donc, encore si on est patron, on comprend que dès qu'on est patron, on est indépendant, on doit faire plus d'heures. Là, on a une convention collective qui nous fait travailler 5 jours et demi par semaine, 51h50. Ça n'existe nulle part ailleurs. Pour un salaire qui est en dessous de 20 francs de l'heure. Les gens ont des conditions de travail en Suisse, dans beaucoup de domaines, qui sont excellentes. Mais, et là je peux les comprendre, quand on est là-dedans depuis longtemps, on ne peut plus s'en rendre compte. On est dans le déni, dans quelque chose où on veut toujours plus, on veut toujours mieux, on veut toujours là. Et quand on retombe de patron en plus à agriculteur, eh ben ça nous remet les idées en place. On touche effectivement la terre, on la touche avec la tête, parce que des fois on tombe, avec les pieds, avec les mains, et on se rend compte de la valeur qu'a réellement une heure de travail. Et à quel point ça peut être gratifiant de le faire, parce que quand on récolte les courges, les choses comme ça, on se dit « ouais, on nourrit vraiment quelqu'un, on a quelque chose qui fait du sens », mais derrière, on se rend aussi compte des conditions déplorables dans lesquelles travaillent les agriculteurs. Au niveau financier, c'est ça. Maintenant, par rapport à l'agriculture, ce que tu me demandais ensuite, c'est quelles sont les solutions qu'ils auraient. Ce serait d'avoir plus d'employés, clairement, pour que les gens aient un meilleur bien-être animal, donc le meilleur bien-être humain, si on veut que les gens comprennent. Ce serait d'avoir plus d'employés, mais pour ça, il faut recevoir plus d'argent. Et puis aujourd'hui, en fait, le gros problème de l'agriculture, à mon sens, hein, puis je sais que j'en ai déjà discuté avec certains collègues, ça passe bien parce que j'essaie d'être diplomate, mais si on veut être tout à fait franc et honnête, c'est qu'on a dit aux agriculteurs acheter des machines pour remplacer la main-d'œuvre. C'est aussi simple que ça. Et on leur a fait croire qu'avec des machines, ça serait plus facile, plus longtemps, etc. Mais du coup, vous avez un amortissement énorme dans chaque exploitation à faire tous les ans. Il y a 90 000 francs par-ci, 20 000 francs par-là, etc. Donc cet argent, en fait, on leur a fait croire qu'avec les machines, ils auraient besoin de moins de main-d'œuvre, mais du coup, ils se fatiguent physiquement et psychiquement parce qu'ils sont seuls. Donc c'est des gens isolés de plus en plus, qui arrivent quasiment plus à interagir avec leurs employés, souvent. Donc ça, c'est très rare que les employés restent. Du coup, on a énormément de maraîchers ou d'agriculteurs qui arrêtent après 2-3 ans, c'est aussi simple que ça, ou qui finissent dans les bureaux d'Agroscope ou je ne sais où, parce que c'est plus facile et puis qu'ils ont un meilleur revenu et puis une meilleure LPP et autres. Mais voilà, l'agriculteur, lui, on lui a dit « achète des machines, achète des produits et puis tu verras, ça va être facile ». Bah oui, parce que quand on va désherber avec la sarcleuse dans le soja, c'est clair que moi, je passe avec mon tracteur, l'autre, il peut faire autre chose à côté, et puis bien sûr que la machine, elle nous aide. Mais en fait, c'est le côté vicieux, c'est vraiment servicieux. C'est que maintenant, du coup, ils sont isolés, ils ont quand même pas plus de moyens, alors qu'on leur a dit qu'ils auraient plus de moyens. Alors oui, ils font plus de surface, mais au final, du coup, on a moins de diversité dans les surfaces. On a moins d'idées, puisqu'il y a moins d'agriculteurs, on a moins d'écosystèmes agricoles. Et du coup, ben, on est dans une espèce de limitation par le bas, en fait.
Alors Vincent, tu vas nous donner un peu des espoirs, j'espère, parce que tu sais qu'avec Mettons Couvert, on a un sujet central en fait qui tourne autour de cette fameuse notion de durabilité, en se disant que justement, on essaye d'avancer, alors chacun avec des petits pas, et on sait que c'est difficile, et c'est bien que tu nous donnes ce témoignage, parce que je pense qu'on ne l'a pas assez. Mm-hmm. Et c'est un peu, on espère que nos auditeurs et nos auditrices, la prochaine fois qu'ils verront une ferme, qu'ils verront un champ, bah, peut-être qu'ils se poseront une question sur justement ces conditions. Mm-hmm. Ce que tu viens de nous dire, il y a des gros enjeux économiques, humains, et de l'autre côté, on a un enjeu encore plus grand, qui est celui de la planète, qui est pas dans bonne santé.
Et de nourrir tout le monde.
Voilà. Donc, c'est le paradoxe. Comment, toi, tu vois ça, avec ce regard un peu neuf que t'amènes, en fait, aussi dans ce milieu? Comment tu verrais un peu l'évolution possible de cet aspect de durabilité dans l'agriculture?
Voilà. J'ai un regard un peu spécial là-dedans, parce que je crois même pas, c'est même pas une croyance, c'est une réalité qu'on ne connaît pas aujourd'hui, c'est que pour moi, la durabilité de l'agriculture, elle existe, il faut trouver des solutions, certes, mais si on veut vraiment parler de durabilité, il faut déjà arrêter de perdre des terres agricoles. Une terre agricole, elle est agricole, qu'elle soit bien ou maltraitée, ça reste une terre qui est vivante. Même si on a détruit à travers labour et autres produits pesticides à longueur d'année, elle peut redevenir une terre vivante avec des bonnes pratiques. Enfin, des bonnes pratiques, c'est toujours difficile de dire bonnes pratiques, ça ne veut pas dire que ces gens travaillent mal, ça veut juste dire qu'ils travaillent avec leurs outils. Mais avec de nouvelles pratiques, on pourrait redonner de la vie à cette terre. Par contre, lorsqu'on urbanise, lorsqu'on artificialise un sol, on ne peut plus revenir en arrière quasiment. Aujourd'hui, c'est impossible de dire aux gens, après avoir urbanisé un sol, revenons en arrière, on en refait un verger de pommes. C'est pas possible. Mais tant qu'on continuera à urbaniser et à réduire les surfaces agricoles en Suisse, on ne pourra pas améliorer. Parce qu'on va perdre un nombre d'agriculteurs incalculable, on va avoir de plus en plus de grandes exploitations, et du coup, on n'aura pas des gens qui seront capables de gérer un renouveau agricole. Moi, mon patron, avec 100 hectares tout seul, où il s'en sort tout juste avec un employé, c'est pas possible. Il ne pourra pas devenir le Bill Gates ou le Steve Jobs de l'agriculture. Il n'a pas le temps de réfléchir à des nouvelles solutions. C'est aussi simple que ça. Mais c'est parce qu'on ne lui donne pas la capacité. S'il avait le temps, s'il avait l'argent, il pourrait prendre du recul, se dire « Ah ouais, je vais regarder 2-3 trucs sur Internet, des formations, faire des formations. » Il n'a pas le temps d'aller aux formations. Donc ces gens, ils ont des solutions sous la main, ils pourraient en avoir, mais ils n'ont pas la capacité de les atteindre. Voilà, donc pour moi, on met la main sur un problème, enfin, de manière générale, hein. L'agriculture est vraiment mise au pilori sur beaucoup d'aspects, à travers les votations, enfin, on n'a jamais voté autant. Il n'y a pas un secteur d'activité sur lequel on vote autant que l'agriculture, alors que c'est le secteur le plus vital, si on veut. Alors, dans un sens, on pourrait se dire, justement, c'est tellement vital, on mange tous les jours, donc on a besoin de contrôler ce qu'on mange, par les votations ou par des actions, mais on s'approprie, à mon avis, des pratiques et des techniques que l'on ne connaît pas. Et pour moi, aujourd'hui, on est à un stade où il y a des gens qui vivent hors sol, qui mangent hors sol, qui jugent des gens qui ont la main dans la merde et dans la terre. Et ça, c'est très difficile à comprendre parce que, justement, on est dans une société où on pense tout savoir. Les gens vont sur Internet, Instagram, ils voient des pratiques, ils disent « t'aurais dû faire ça ». Moi, j'étais pareil, je suis arrivé à la ferme, mon patron, j'avais envie de révolutionner son truc. Je disais « tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Puis tout d'un coup, bah, petit à petit, je suis une épée dans la merde, effectivement, puis je me rends compte qu'il y a des contraintes. Et puis quand moi, je veux faire ça, ben, il y a des choses qui... Il y a soit la nature, soit les machines, soit quelque chose qui fait que, soit mes connaissances personnelles, que je ne peux pas le faire. Et donc, on n'a rien révolutionné avec mon arrivée, parce que aussi, ben, c'est difficile pour quelqu'un qui a été seul depuis aussi longtemps de faire des nouvelles choses, mais je pense que même moi, si un jour j'ai une exploitation, pour que je puisse révolutionner un système dans une exploitation existante, il me faudra 5 ans. C'est aussi simple que ça. C'est des processus de 5 ans minimum à mettre en place. Voilà. Et donc ça, les gens, en vivant hors sol, on ne peut pas le comprendre. Et il faut se reconnecter au sol.
Se reconnecter à la terre. Ouais, ouais. Merci. Non, merci vraiment pour ce témoignage, parce que je pense que ça éclaire, et en tout cas, ça fait poser des questions. On n'a peut-être pas toutes les réponses, mais en tout cas, on commence à se poser des questions. Et quand on s'est rencontrés pour préparer ce podcast, on a démarré autour de deux thèmes qui sont très liés, en fait, hein, au domaine en particulier de l'élevage, qui suscitent pas mal, on va dire, de questions, de critiques aussi. Les thèmes du lait et de la viande.
Bah, les produits animaux,
voilà.
Ceux qui détruisent la planète.
Alors, pour certains, ils détruisent la planète. Pour d'autres, ils doivent faire partie d'une alimentation équilibrée. On en a parlé avec Laura Rode dans notre épisode numéro 20. On sait que ce sont des sujets qui peuvent cliver, surtout maintenant. Comment on pourrait, pas forcément changer de regard, mais avoir un regard sur ces produits, peut-être mieux les comprendre. Et je pense, quand on disait au début que tu étais vraiment de la fourche à la fourchette, tu nous as montré que tu as fait ça en mettant tes pieds dans la terre. Quel est ton message par rapport à ces deux produits ?
Alors, moi, pour démarrer, je dirais qu'une des choses qui m'a décidé à devenir agriculteur, c'est aussi que je voulais avoir la maîtrise de mon alimentation. Ça veut dire la maîtrise, ça veut dire aller au stade où j'abats mes propres animaux. Donc, ça, c'est vraiment une volonté. J'ai pu le faire depuis une année et demie sur des volailles, ce qui est déjà pas mal. Là, avec Biovo, je suis dans un groupe de travail pour faire l'abattage à la ferme des bovins. Et on va faire le premier abattage à la ferme d'un bovin en août à Longiro. Donc, c'est une grande avancée pour le canton de Vaud, qui est en retard sur beaucoup de cantons suisse-alémaniques et suisse-romands. Je tiens à le préciser, je ne vous dirai pas pourquoi, parce que c'est des choses politiques. Mais en tout cas, on est en train d'avancer là-dessus. Il y a des études formelles qui démontrent que les animaux, quand ils sont abattus à la ferme, il y a beaucoup de stress, d'hormones de stress qui ne se retrouvent pas dans le produit final. Ça ne veut pas dire que la qualité du produit n'est pas bonne quand ça passe à l'abattoir, c'est juste qu'il y a une différence de stress claire et nette, parce qu'à la ferme, il ne se rend pas compte qu'il est abattu. C'est aussi simple que ça. parce qu'on l'habitue à aller à l'endroit où on va l'abattre, et à aucun moment, avant d'être assommé, il peut se rendre compte qu'il va être abattu. À l'abattoir, ce qu'il faut savoir, souvent les gens se disent « les animaux savent qu'ils vont être abattus ». C'est absolument faux. On humanise de nouveau la réaction de l'animal. L'animal ne connaît pas l'abattoir. L'animal, une vache par exemple, elle sait quelle odeur elle connaît et quelle odeur elle ne connaît pas. C'est les odeurs qui la guident. Si moi, demain, je vais avec ma vache pendant un mois, toutes les semaines à l'abattoir, en la tenant au licol, en la faisant passer à travers le processus d'abattage, sans l'abattre, un mois plus tard, elle y va, les yeux fermés. Parce qu'elle est avec moi, que je suis allé plusieurs fois avec elle, qu'elle a mes odeurs, qu'elle a été habituée au lieu. C'est des animaux d'habitude. Maintenant, je pense qu'il y a un gros problème de clivage, effectivement, mais je crois qu'il est, il est vraiment lié à un problème sociétal. On est dans une société qui n'a jamais eu faim. Donc on peut se permettre de dire ce qui est bien ou pas bien. Et c'est assez impressionnant parce qu'en fait, moi, connaissant la biologie des plantes, je sais qu'un arbre peut communiquer à 4 km avec un autre pour lui dire qu'il y a un prédateur qui arrive dans l'arbre, un bostriche ou je ne sais quoi. Donc à quel point on peut dire aujourd'hui, réellement, qu'un arbre ou une plante qu'on mange, qui est reliée par du mycélium, par des champignons entre elles, qui communiquent par les sols, par les racines, comment on peut dire que je fais moins de mal à moins d'être vivant en mangeant cette plante qu'en mangeant un animal? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Parce que pour moi, le vivant, il est dans sa globalité. Le végétal, l'animal.
Merci pour ce témoignage. Alors avant de passer le micro à Stéphanie, je vais avoir une dernière question. Comment tu définirais ton alimentation durable?
Ben, je dirais qu'elle est vraiment basée sur la biologie. Je parlais avant de hors-sol, et en tout cas pas hors-sol, elle est dans le sol. C'est-à-dire que je ne vais pas manger un fruit qui n'est pas de saison. Même si en hiver, ça m'arrive de manger des ananas qui viennent du Togo, des choses comme ça. De temps en temps, oui. Mais je veux dire, c'est vraiment la biologie de là où j'habite. Donc local, principalement. Et puis, vraiment rechercher mes aliments. Rechercher la viande qui me correspond, quel type de gras je veux. Est-ce que je... Ouais, le beurre aussi, travailler avec du beurre local. Et quelque chose qui me fait du bien. Voilà, je ne vais pas manger quelque chose parce qu'on m'a dit que c'était bon pour moi. Je vais le tester et je vais décider moi que c'est bon pour moi ou pas.
Merci pour ces nombreux éclairages à différents niveaux. Je pense qu'en tout cas, pour ma part, je repars avec beaucoup de questions et beaucoup de pépites. Et j'espère que les auditeurs et auditrices en auront autant. Je vais maintenant passer le micro à Stéphanie.
Vincent, il semble que se reconnecter au vivant, pour toi, c'est central. Est-ce que tu as une petite anecdote que tu aimerais partager par rapport à cette reconnexion au vivant?
Alors, le vivant, c'est... De nouveau, on parle de vivant. Ben moi, dans mon nouveau travail, je parle de mort aussi. Et pour moi, il n'y a pas de vie sans mort et il n'y a pas de mort sans vie. Et donc, j'aime pas trop ce terme... l'alimentation vivante ou toutes ces choses qu'on catégorise comme ça, parce que, comme je l'ai dit avant, moi, ma conscience, elle sait que quand j'arrache une de mes courgettes, ou encore la courgette, c'est un fruit, enfin, c'est un légume, mais la plante est encore en vie, mais si je coupe ma... Si je vais prendre des orties, si je prends des... Si je laboure mon sol, je sais que je tue, et je sais aussi que quand je fais mon poulet, je vais le tuer. Mais je vais à chaque fois dire merci au vivant pour sa mort. Mes poulets, quand je les tue, je les prends, je les caresse, je leur dis merci. Je leur dis que grâce à lui, certaines personnes vont mieux vivre, les gens à qui on vend les poulets. Moi, je vais mieux vivre parce que j'aurai un salaire et je vais aussi pouvoir profiter de sa chair. Je dis toujours merci, toujours, toujours. Les taureaux, quand ils partent le matin à 4h du mat, puis ça me fait à chaque fois ça. C'est à chaque fois difficile parce qu'on les a élevés. Et puis c'est... J'arrive pas à en parler sans avoir ces émotions parce que c'est vraiment mes copains. Et je sais depuis le début... Quand ils naissent mal, je sais ce qui va arriver, mais j'arrive pas à me détacher. Mmh. Et puis c'est à chaque fois comme ça. Mmh. Et le temps s'arrête là, parce qu'on se dit merci, mais en même temps on s'en veut un peu, parce que les gens croient que des fois que c'est facile, mais on s'en veut. Mais après, de nouveau, il faut être réaliste et il faut être terre à terre. Et c'est mon côté peut-être terrien, du coup, qui ressort maintenant comme ça. Mais on a besoin, nous, de continuer à vivre. Donc on doit bien se nourrir de quelque chose, on doit bien... Ensuite, rester vivant. Mmh. On ne peut pas s'en vouloir à vie d'avoir consommé un être vivant ou consommé une plante vivante. Mmh. Par contre, on peut faire quelque chose derrière pour compenser ces pertes. Et on se doit, du coup, de continuer à promouvoir le vivant et à faire des choses qui font que le vivant persévère. grâce à nous, grâce à ces animaux qu'on a en guillemets sacrifiés pour faire mieux.
Clairement, t'es vraiment un ambassadeur de ça en fait. Quand on te suit sur les médias sociaux, on voit tout de suite que t'es vivant à fond quoi. Mm-hmm. Tu expérimentes.
Les émotions qu'on, mm-hmm. que les animaux nous donnent, on mm-hmm. sent. C'est se détacher de ça, ça serait terrible. Les gens me disent souvent, mais comment t'arrives à prendre tes animaux dans les bras, puis justement en sachant derrière. Mais laissez-vous aller, les gens, quoi. On est dans une société où on. Toujours sur le reculon, toujours un peu. Il faut arrêter. Il faut prendre les émotions quand elles viennent, mmh. les bonnes et les mauvaises. C'est ce qui nous fait vivre. Et après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments. Là, l'autre jour, j'enlevais des chardons, je regardais mon troupeau, là, à un moment donné, je me suis assis 5 minutes et ça revient en vivant. Je me suis assis, j'ai mis les mains au sol. Puis souvent, j'ai mis les écouteurs, puis j'écoute ma musique quand je fais ce genre de boulot, parce que c'est tellement chiant, pour dire une chose comme elles sont, que voilà. Et là, je me suis dit, mais maintenant, tu prends toutes les heures une pause de 5 minutes, parce que c'est physique, donc on a quand même besoin de s'arrêter, et tu enlèves ces écouteurs, tu t'arrêtes, et tu vis l'instant. Et des fois, il pleut, des fois, il pleut pas. Et vraiment, de se connecter aux éléments à ce moment-là, de regarder le troupeau si je suis près des vaches, ou de regarder les biches, de regarder les renards, les faucons, et vraiment de s'imprégner de ça en se disant... Ces animaux, ce vivant, il vit comme il doit vivre. Et nous, on devrait un peu aussi se calquer là-dessus, se dire, je dois vivre comme je dois vivre. J'ai des contraintes dans la vie, ils ont tous des contraintes. Le faucon, il doit chasser en ce moment. Il a les petits, il doit leur donner à bouffer. Mais derrière, il ne se pose pas de questions. Il fait ce qu'il a à faire. Il ne va pas se dire, oh, la pauvre petite souris, je l'ai tuée. Ouais, mais t'as nourri 4 petits faucons. Il faut se laisser aller des fois. Et constater ce que la nature nous apporte, ce que les sentiments bons ou mauvais peuvent nous apporter dans la nature.
Mmh. Ouais, absolument. Mais dans ton assiette concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé comment elle a changé concrètement?
Alors c'est cette connaissance des aliments. Mmh. Il y a rarement un aliment que je ne connais pas dans mon assiette. Et puis c'est des aliments entiers que je transforme.
Tu cuisines personnellement?
Oui, beaucoup. Même si j'ai un peu moins le temps maintenant, mais j'essaye toujours. Le dimanche, en général, je passe 3-4 heures à faire mes repas pour la semaine.
Tu fais du batch cooking.
Ouais, exactement. Et souvent, du coup, en fait, je jette rien. Bon, si on parle de
food
waste.
On attend tes stories. Hein.
Ouais. Alors, j'en ai mis à une époque, mais j'en mets moins parce que j'ai souvent eu des réponses assez violentes, en fait, sur les stories avec ce que je mettais. La dernière qui m'a fait un peu décrocher, c'était sur un cœur d'un de nos bœufs, d'un taureau qu'on a fait, nous. Et j'ai régulièrement, comme dernièrement, quand j'ai parlé du lait, justement, en faisant des stories un peu plus tranchantes, où des gens m'envoient des messages en me disant... parce que le problème, c'est que j'ai quand même, avec le sport, des gens que je ne connais pas, qui me suivent. La plupart des gens qui interagissent avec moi maintenant sont des gens que je connais, depuis que je suis agriculteur, mais avant, j'avais 1000 personnes qui étaient connectées à moi que je ne connaissais pas. Maintenant, ça c'est bien... Voilà, j'ai bien pu en enlever. Mais du coup, il y a des gens qui sont dans ce domaine, et puis qui lisent les journaux, qui font les perroquets, qui répètent ce qu'ils ont pu lire sans faire les recherches, et qui m'envoient des bananes à travers la figure. Et c'est pas que j'ai pas envie, que en général je réponds de manière publique, c'est plus simple, je trouve que c'est pas dirigé aux personnes, mais ça fait son effet, parce que ça, les gens se posent beaucoup de questions après mes stories là-dessus, mais du coup je poste plus mes repas, alors que j'y ai pensé, ce serait quelque chose à faire un jour, mais je pense que ça choquerait les gens, parce qu'il y aurait beaucoup de lait cru, il y aurait beaucoup de viande rouge, contrairement à ce que justement mes médecins m'avaient dit à l'époque. Et ça fait 2016, ça fait 7 ans que j'ai pas eu de problème inflammatoire en mangeant ce qu'on m'a dit de pas manger.
En plus de tout ce que tu manges, donc le local,
oui.
le de saison,
alors,
issu de ta ferme.
Issu de la ferme. Et je mange finalement pas mal de céréales quand même, parce qu'une fois par semaine, on se fait une pizza à la maison avec la farine du domaine, enfin qui est envoyée à un moulin et tanière qui fait avec les farines bio du coin, donc il y a la nôtre dedans, c'est pas forcément la nôtre, mais voilà, elle est dedans. Et puis on se fait des crêpes une fois par semaine aussi, donc c'est un peu notre cheat meal de la semaine. Ça fait beaucoup de céréales, et c'est marrant parce que moi je suis pas un grand fervent des céréales. Pour moi, les céréales ont dénaturé l'humain. Le blé a domestiqué l'être humain plutôt que le contraire, à mon avis. Mais malgré tout, j'adore ça. Et puis de nouveau, comme j'ai dit, il y a pas de. Faut arrêter de culpabiliser ou de dire aux gens que telle ou telle chose est pas bonne. Ça dépend. Si vous la digérez, elle est bonne pour vous. Si vous la digérez pas, elle est pas bonne pour vous. C'est aussi simple que ça. Faut arrêter de compliquer le truc.
Absolument. Et du coup, nous, on encourage souvent aussi nos auditeurs à faire les bons choix alimentaires. Donc, quand on t'entend, on pense tout de suite à choisir la qualité plus que la quantité.
Et la richesse. C'est ça, vraiment la richesse des aliments. Je mange de la viande rouge, pourquoi? Parce que c'est littéralement l'aliment le plus riche qui existe au monde. Parce que je mange tous les morceaux. Tous les morceaux. Il n'y a pas un morceau que je ne mange pas. Donc ça veut dire que je vais avoir le collagène. Typiquement, j'ai tellement de copains dans le fitness qui prenaient des suppléments de collagène. Je disais, mais faites-vous un jarret une fois par mois, puis c'est réglé votre collagène. Enfin, le bouilli, le jarret, vous arrêtez de faire les bouillons. Enfin, vous faites les bouillons d'os, il n'y a plus besoin de collagène. Moi, j'ai mes bouillons que je fais, je les mets en pot et puis j'en ai pour toute l'année. Enfin, j'en fais au fur et à mesure de l'année, mais c'est hyper simple, c'est un dimanche, tac, c'est fait, et puis après, vous avez votre collagène pour l'année. Plus besoin d'acheter à raison de milliers de francs des suppléments. C'est hallucinant.
Merci Vincent, on pourrait parler pendant des heures. Et je serais très curieuse de venir dans ta cuisine pour voir comment tu fais ton bouillon.
Ouais. C'est assez à l'arrache. Hein. je suis aucune recette. Donc des fois, ma copine, elle hurle parce qu'elle me dit « Mais c'est dégueulasse cette fois !» Puis moi, je m'en fous.
Cette fois. Ça va pour cette fois, ouais. Ça passe pas. Merci beaucoup Vincent, c'était hyper intéressant. Je vais clôturer cet épisode avec un petit quiz et passer la parole à Aude, du coup, pour du tac au tac. Allez, le quiz.
Alors bonjour Vincent, on a parlé science, on a parlé cuisine, on est vraiment allé dans l'assiette, on a aussi parlé d'être hors sol, ou les pieds dans la terre, et maintenant on va essayer de donner des ailes un petit peu à nos auditeurs et nos auditrices, avec ce petit quiz, on va parler des astuces, vraiment des astuces que tu peux leur donner, puis être un petit peu fun. Alors bien, première question. J'ai vu que tu avais une vache qui était sur ton écran. Quelle est ta vache préférée?
Alors j'avoue que je suis tombé amoureux de l'Evolenhard. C'est une race qui ressemble à la vache d'Airain, mais qui est plutôt rouge et blanche. Alors il y en a des noires et blanches aussi. Elle ressemble au niveau gabarit, elle est un peu plus petite. Et c'est une vache hyper rustique, mais qui fait pas mal de lait pour sa taille. Petite vache. Et j'adore parce qu'elles ont un caractère de cochon. Et puis j'adore ça, moi les vaches qui sont pas cool. Elles ont des superbes cornes, parce que le jour où j'aurai une ferme, j'aurai des vaches à cornes. Même si c'est très compliqué à gérer, parce qu'encore les gens, ça c'est aussi quelque chose qu'on dit souvent, elles ont pas de cornes, ouais, mais le jour où tu te prends une corne, ben voilà. Mais oui, j'adore les Evolenhard, c'est vraiment... voilà, elle a un caractère qui me plaît. Elle est superbe physiquement aussi.
Combien de lait, par an?
3500 à peu près. Mais bon, après, si on fait de la génétique, on peut largement améliorer. Non. Mais ça dépend de ce qu'on veut faire.
Ouais,
il suffit de sélectionner les meilleures productrices. C'est ça la génétique. Il n'y a pas besoin de commencer à faire du laboratoire. Hein. Mais ce sera à voir pour l'avenir. C'est vraiment, de nouveau, est-ce que c'est rentable d'avoir des espèces comme ça?
Et ma prochaine question, c'est quel serait ton rêve de ta future exploitation?
Ce serait d'avoir une exploitation avec tous les terrains attenant à l'exploitation, majoritairement. Je dirais aux trois quarts, pour pouvoir faire justement de l'élevage laitier avec veau sous la mer, mais avec un autre système que celui que je suis allé voir. C'est un système où le veau est avec la mer la journée, une grande majeure partie de la journée dans les prés, et à 15-16 heures on les sépare, et le lendemain matin on traite. Donc une monotraite par jour, et on fait du lait du coup avec le veau sous la mer, et on a ce côté où on a moins de travail du coup, parce qu'il suffit de les séparer une fois par jour et de les remettre ensemble une fois par jour. Donc là, on gagne ce fameux temps qui fait que le bien-être humain est respecté, le bien-être animal aussi, le lendemain matin en trait. Et après, du coup, l'avantage, c'est qu'on peut laisser les veaux avec les mamans, parce qu'ils sont habitués. Juste, il faut juste leur mettre l'anneau une fois qu'on veut les sevrer, pour pas qu'ils continuent à téter. Et là, je pourrais faire ensuite l'engraissement au pâturage pour mes taureaux. Enfin, du coup, mes bœufs, parce que je devrais les castrer, pour pas les laisser, pas qu'ils prennent les mères et les sœurs. Mais ce serait l'idéal. Moi, j'aimerais une exploitation 100% herbe, pas de grande culture. Parce que, comme j'ai dit, ma conscience, ma sensibilité fait que je suis très sensible aux insectes et tout ça. Et je sais qu'en labourant, j'en tue beaucoup plus que les animaux que je tue en faisant mes vaches. Donc je ferai presque du 100% culture animale, culture élevage animaux. Mais j'aurai des arbres fruitiers, sûrement, des haies. Essayer de faire des fruits, je parlais avant que je mangeais plus de fruits que de légumes. Ben voilà, c'est ma sensibilité.
Et finalement, ça rejoint ta première idée d'être au plus proche, dans le contrôle de ton alimentation. Et justement, qu'est-ce que tu mangerais sur la tête d'un pouilleux? C'est-à-dire, dans n'importe quelle condition.
Je suis un gourmand, il y a à peu près beaucoup de choses, mais si je devais vraiment, et puis ça part vraiment dans le sens de ce qu'on a dit avant, mais ce serait une pizza.
Magnifique. on a tous des...
Après, on peut la faire avec la farine du domaine, du coup, enfin, du domaine du voisin, du coup. Parce que...
Laissons-nous avec nos incohérences.
Oui, voilà, exactement.
Hein, c'est comme ça qu'on est plus humain. Et qu'est-ce que tu ne mangerais pas, même sous la torture?
J'ai eu de la peine à réfléchir à ça. Je suis tellement un gourmand qu'il y a beaucoup de choses que j'aime, mais je dois avouer...
Je pensais que tu allais dire les insectes.
Non, les insectes, j'en ai mangé quand j'étais au Mexique, d'ailleurs. Une bonne sauterelle grillée, ça passe. Non, puis franchement, c'est une nourriture ancestrale, donc pourquoi... Par contre, après, bah oui, si c'est dans un élevage de multimilliards de cigales et de grillons, non, je ne me verrais pas manger ça. Si j'en trouve un dans mon champ et que je peux le croquer, bah, je ne dirais pas non, honnêtement. Non, vraiment, s'il y a une chose que je ne mangerai pas aujourd'hui, c'est vraiment les ersatz de viande. C'est, désolé de le dire, c'est saloperie pleine de produits transformés. Il y a 40 ingrédients pour un truc qui n'en contient qu'un dans la vraie vie. Enfin, voilà.
Ah non, ça fait du sens avec tout ce que tu as dit auparavant. Et si on revient au bien-être animal, humain, ton réflexe le matin au réveil pour préparer ton corps, ton esprit à la journée qui arrive, parce que tu as de sacrées journées.
Oui.
Alors, est-ce que ça peut nous inspirer?
J'ai une contrainte, mais que je me suis mise moi-même, c'est que j'ai un gros chien, donc il faut que je le sorte. Donc, tous les matins, eh ben, on va se balader à 6h. Et puis, l'année prochaine, en apprentissage, ce sera même plus tôt. Mais voilà, c'est la balade de 45 minutes avec Charlie, qui mérite sa balade du matin au frais, parce qu'il a chaud l'après-midi. Et puis, ça ouvre voilà, dans la forêt, parfois à pieds nus quand il fait bon le matin. En général, c'est plutôt à midi la balade à pieds nus. Mais le matin, ça, je trouve qu'une balade sans téléphone, sans contrainte, sans rien du tout, c'est l'idéal.
Et alors justement, à midi, qu'est-ce que c'est ton lunch sain ou le lunch qui te correspond bien en 10 minutes chrono? Parce que ça, on pose souvent cette question.
Et on n'a pas parlé des œufs, c'est très bien parce que je suis un gros consommateur d'œufs d'ailleurs. Je dirais 5 œufs, un verre de lait cru. Si c'en était une carotte nouvelle, avec quelques tomates, et puis quoi d'autre? Sûrement autre chose, un peu de fromage, soit un serré, soit du fromage râpé dessus, et puis peut-être des patates nouvelles, mais non, les patates, ça demande plus que 10 minutes.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais. Contrainte de 10 minutes chrono, parce que même
le bureau... Tout le reste, les œufs avec ce que j'ai dit. Alors du coup, beaucoup de fromage.
Et est-ce que tu as eu une astuce anti-gaspille?
Manger les restes. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas grand-chose qui part... Alors à l'époque où j'avais des poules, je pouvais encore filer mes restes des restes aux poules. Maintenant, je suis obligé de tout consommer. Ouh, il y a Charlie qui s'en occupe.
c'est pratique.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire par ses actions durables, plutôt dans le domaine alimentaire?
Une personne... Comme ça, je n'ai pas d'idée. Dans le domaine alimentaire, je n'ai pas vraiment de...
Agricole, si tu veux, peut-être.
Ouais, alors agricole, ça a américanisé un peu la chose. Gabe Brown, qui est un agriculteur qui est passé de 1% de matière organique dans ses sols à 11,1% en 5-6 ans, alors qu'en Suisse, quand on parle aux agronomes, ils nous disent que c'est impossible. Impossible. Enfin, un peu comme les médecins qui m'ont dit que je ne pouvais pas me soigner. Et puis en fait, le gars, il a simplement réintégré les animaux dans ses cultures. Alors, il a un système de culture très performant, beaucoup de couverts végétaux, beaucoup de diversité, mais c'est un génie qui ne se prend pas pour un génie. Et je pense que si des gens comme ça pouvaient venir dans nos écoles d'agriculture, eh ben là, on ferait un sacré pas en avant. Okay. Alors, ça ne serait pas très vegan, par contre, mais voilà, malheureusement.
On va mettre ses références.
Oui, Gabe Brown.
Oui. Est-ce qu'il y a un livre ou un site web que tu recommanderais à nos auditeurs et nos auditrices?
Ce serait de nouveau quelque chose de... C'est pas américanisé, cette fois c'est africanisé, c'est le Savory Institute. C'est Alan Savory, c'est un chercheur, c'était à la base un ranger en Afrique du... Enfin dans un pays d'Afrique, c'est quelqu'un de couleur blanche, c'est pas, mais il est né en Afrique. Et en fait, c'était un ranger dans un parc national, donc il a tué des milliers d'éléphants à l'époque, dans les années 60, et à un moment donné, il s'est rendu compte, il s'est dit, non mais là, il y a quelque chose qui joue pas. Et c'est lui qui a mis au point le système, ce qu'on appelle le... Enfin, c'est un système de pâturage très rapide, où on déplace les animaux régulièrement, et où il arrive à revitaliser un désert. C'est-à-dire qu'ils ont des parcs de nuit, par exemple, où les animaux font leurs besoins, et ils mettent du foin avec eux, comme ça, ça réensemence naturellement. Et en une année, dans un désert, ils créent de l'herbe. Avec son système. Et il est absolument... tous les scientifiques actuels le traite de tous les noms, parce que pour eux, c'est presque un complotiste. Et en fait, le gars, il a des centaines d'agriculteurs qui ont fait son école, qui ont les mêmes résultats que lui, et Gabe Brown suit en fait ses principes de pâturage, à la base, en ayant modifié à sa sauce. Donc l'Institut Savory, avec le livre Holistic Management, qui est vraiment une vision justement climatique de l'élevage, avec le cycle de l'eau, le cycle des minéraux, les animaux, les végétaux, tout est pris en compte. On ne se focalise pas sur un métrique.
Merci, super. Voilà. Aussi, on va mettre ça en référence. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une association que tu aimerais mettre en avant?
Alors oui, une association suisse, c'est bien, on va faire le tour du monde. L'association Free the Bees, qui est à Fribourg, c'est, je dirais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant, mais la seule association en Suisse qui promeut réellement l'abeille et pas la production de miel. Et c'est très important parce que, alors je fais une petite aparté parce que ça me paraît important de dire ça, en Suisse on parle beaucoup de l'exploitation des vaches pour le lait, et depuis 1960, les vaches ont produit deux fois plus de lait, en moyenne. Les abeilles, on dit soi-disant qu'il n'y a plus de flore, il y a moins de diversité, elles ont moins de nourriture, etc. Et ben, les apiculteurs ont réussi à leur faire produire 4 fois plus de miel depuis 1960. Et quand on parle d'élevage intensif en Suisse, si on prend les chiffres, l'apiculture est l'élevage le plus intensif de Suisse. On n'en a déjà jamais entendu parler en septembre dernier pendant les votations. Parce que c'est un domaine où on fait du bee-washing. On croit qu'en ayant des abeilles, on sauve la planète. Et c'est totalement faux parce qu'il y a 650, entre 600 et 650 abeilles sauvages en Suisse. L'abeille mellifère est une de ces espèces et en la promouvant aux dépens des autres, en réalité, on crée un déséquilibre total dans l'écosystème. Donc cette association me plaît à ce niveau-là parce qu'elle travaille vraiment sur l'abeille endémique, l'abeille sauvage, et elle veut promouvoir une apiculture beaucoup plus raisonnée. Ce qui aujourd'hui est la raison pour laquelle je n'ai plus d'abeilles, c'est que ça n'était plus du tout dans mes valeurs, alors que bah, oui, tout le monde adore le miel, tout le monde adore la valeur de « Ah, cette entreprise, elle a des abeilles sur son domaine, c'est génial !» Peut-être pas.
Oui, effectivement. Le nom d'un ex-apiculteur peut bien être sûr de quoi tu parles. Est-ce qu'il y a maintenant une actualité que tu aimerais partager par peut-être ton apprentissage?
Alors, je vais démarrer au mois d'août, dans le lait, du coup. Cette fois, je ferai du lait et plus de la viande, en Gruyère, chez une patronne qui est de famille paysanne, mais qui est revenue à la paysannerie à 31 ans, je crois, alors qu'elle était enseignante à Prix et à Épalinges. Et donc, je me réjouis d'être chez elle, parce que c'est quelqu'un que j'appréciais, donc c'est pour ça que je suis allé là, enfin, essayer de me faire engager, ça a marché, heureusement. Donc faire du lait sur un plus petit domaine, moins de grandes cultures, donc je vais être moins mécanisé, ça va me plaire. Et puis après, le reste, c'est la recherche d'un domaine pour plus tard, pour dans 2 ans.
Breaking news, bonne nouvelle, Vincent vient juste de nous annoncer qu'il vient de signer pour le domaine de ses rêves. On reprend avec l'interview.
Si tu devais encourager nos auditeurs et nos auditrices à se poser une question la prochaine fois qu'ils seront devant leur assiette, qu'ils tiendront leur fourchette, ça serait quoi?
On en a déjà parlé, mais est-ce que cet aliment va me faire du bien? Est-ce que je vais l'apprécier à sa juste valeur? Et puis même s'il n'est pas forcément bon sur le papier, c'est pas grave. Est-ce que à ce moment de ma vie, il va me faire du bien, pour une raison ou pour une autre? Voilà.
Merci Vincent, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais ajouter avant de nous quitter?
De nouveau, redire aux gens de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on leur dit forcément, de vérifier, c'est pas qu'il ne faut pas faire confiance, mais de faire confiance en ayant un esprit critique. Et vraiment de se demander si on n'est pas en train justement de tous, à travers les politiques et autres choses qui se passent dans le monde, devenir des gens hors sol. Et si on ne devrait pas couper la ficelle qui tient la tomate hors sol et retomber par terre, quitte à s'éclater un peu, et se remettre sur ses pattes. Je pense que c'est très important.
Les pieds dans la terre.
Voilà.
Merci Vincent, cet épisode
est
terminé. Et pour suivre l'actualité de Vincent, nous vous encourageons à visiter son fil LinkedIn, Instagram, Facebook. Merci à l'agence de communication Shine à Lausanne pour leur soutien et à la fondation InArtist de nous permettre d'enregistrer dans leurs locaux. Si cet entretien t'a inspiré, pourquoi pas le partager autour de toi? Nous laisser une note 5 étoiles, ça aidera à le diffuser à encore plus de monde. Si tu as des astuces que tu as mises en place, qui t'ont fait avancer dans cette transition durable, partage-les en commentaire. Nous serons heureuses de les mettre en avant avec la communauté de Mettons en couvert. Et pour connaître le prochain épisode, abonne-toi sur la plateforme audio et sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. Puis si tu cherches un groupe sympa et motivé à faire changer notre assiette, rejoins notre association en nous contactant à mettonslecouverttoutattaché@gmail.com. Merci encore pour ton écoute et ton soutien. Nous remettrons le couvert bientôt avec un nouvel invité. Et continuons à planter notre fourchette ensemble et faire de l'alimentation une solution pour recréer le bien-être des générations futures.